Bonjour à chacun et chacune. Voilà, donc ce matin, j'aimerais vous expliquer pourquoi j'ai à cœur depuis un moment de parler au sujet de la prophétie et du don prophétique. Et en fait, il me semble que plus une église grandit, plus elle s'affermit et plus elle peut et doit être amenée à pratiquer les dons spirituels. Bibliquement parlant, j'ai envie de dire que toute la pratique des dons spirituels est réservée à chaque chrétien. Chaque homme, chaque femme a le droit d'exercer, de demander et d'exercer les dons spirituels. Après, c'est Dieu qui donne ou qui ne donne pas, mais au moins, nous, on peut être disponible pour recevoir. Et pour ma part, je pense que ce n'est pas la peine d'avoir fait de grandes études théologiques, eschatologiques, pour recevoir un don de l'Esprit. Il y a quelques semaines, Jean-Luc nous rappelait cette école prophétique du XVIIe siècle qui a été très très important à un moment donné où l'Église était fragilisée. Et donc ils ont eu très à cœur ces jeunes recevaient des choses et les adultes ont accepté de les écouter, d'écouter des jeunes prophètes. Alors ce qu'ils disaient en général, c'était: tenez ferme, cherchez la parole de Dieu, vous la trouverez dans la repentance, la croix. Tenez ferme, cherchez la parole de Dieu, vous la trouverez dans la repentance. Cette prophétie, cette parole peut être pour tous. Donc je voulais voir un peu le caractère prophétique dans la Bible, et c'est clair que les 66 livres de la Bible sont prophétiques d'une manière particulière. Ils ont été choisis et c'est la totalité de ces dons prophétiques qui ont conduit la marche du peuple d'Israël et après la marche du peuple non-juif, c'est-à-dire les gentils dont on fait partie. L'apôtre Pierre a pris le temps d'expliquer l'importance de la parole des prophètes. Donc on trouve dans 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. 2 Pierre 1, 19 à 21. Je vous lis. De plus, nous avons la certitude, nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer vos cœurs. Sachez donc, avant tout, qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est le fruit d'une initiative personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà, pour moi, il y a le caractère prophétique de la parole de Dieu, c'est pour moi essentiel. Dieu a parlé, Dieu a voulu parler. Et la Bible nous parle du dessein de Dieu, avec un EIN, non pas seulement IN, le dessein de Dieu vis-à-vis de son peuple Israël, puis le dessein de Dieu vis-à-vis de l'Église, depuis la venue de Jésus, depuis qu'il s'est révélé en tant que fils de Dieu, et aussi vis-à-vis de l'humanité tout entière. Je crois que... Voilà. C'est la mise en route de leur délivrance. Je reprends. Donc la prophétie est vraiment pour moi l'histoire du futur pour le peuple juif, pour l'Église et pour l'humanité tout entière. Et c'est quelque chose qui est en route. Et les prophètes de notre temps, et il y en a eu et il y en a encore, et de justes, nous disent comment évoluent les choses. Les prophéties qui ont déjà été réalisées, celles qui sont en cours de réalisation, avec tout ce qu'on voit au niveau géopolitique dans le monde ou géo-sociétal. Et puis d'un autre côté, on sait que il y en a encore qui doivent se réaliser. Simplement, par exemple, 50 prophéties de l'Ancien Testament ont parlé de Jésus comme du Messie, et donc ces 50 prophéties se sont déjà réalisées en Jésus. Il y en a encore qui doivent se réaliser, mais on sait qu'on est dans ce mouvement prophétique qui nous parle de quelque chose qui est en marche. Alors après, je me suis posé la question, mais quel est le caractère prophétique de ce qui nous est donné dans le monde audiovisuel, sur les ondes, à la télé, dans les films, etc. Et puis, j'ai pris le temps de regarder dans un programme télé, et j'ai vu naturellement qu'on parlait de la nature, qu'on parlait de l'actualité. Malheureusement, on ne fait pas toujours des rétrospectives ou des recherches plus particulières. On nous donne du brut, toujours des infos, toujours les mêmes. Tous les trois quarts d'heure, on a droit avec un peu plus. Il n'y a pas toujours les liens qu'il faudrait. Et puis, il y a tout ce qui concerne les sports en tout genre, les films d'action, les séries policières, tout ce qui a trait à la vie amoureuse. Et puis là, on a les détails les plus variés, dirais-je, sur la vie amoureuse. Et ses déviances. Mais ce qui soutient une grande partie, pour moi, ce qui a été marquant, c'est de réaliser combien actuellement il y a de films qu'on appelle fantastiques ou films d'horreur ou films apocalyptiques. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me dis, mais attends, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Parce qu'ils nous parlent d'un monde en péril. Très souvent, le monde est en péril. Notre vieille terre, par exemple, est en danger d'être attaquée, pulvérisée. Et il y aura un tout petit nombre qui va s'en sortir et refaire le monde, etc. Et puis, il y a toujours un sauveur. Toujours, toujours, il y a un sauveur. C'est surprenant, hein. Il y a un Zorro, il y a D'Artagnan, ça dépend lesquels. Si, si. Voilà, et ça c'est des Américains. On va me dire que ce sont des Américains. Ce sont des Américains. Et en fait, tous ces films, tous ces trucs très variés vont essayer de nous parler de l'avenir et nous donnent à vivre, à anticiper l'avenir. Quand on prend tout ce que les jeunes apprennent sur l'au-delà, tout est truqué. Comme ils l'ont vécu en étant dans les jeux vidéo, etc. Alors, plus ou moins de manière importante, ils sont imprégnés par ça. Et puis, c'est toujours, alors vraiment toujours, dans un contexte de réalité occulte. Il va encore y avoir dans quelques jours une série Twilight où, à nouveau, on se retrouve dans une situation où il va y avoir un groupe de quelques hommes qui vont sauver la mère patrie, notre grande terre de France. Et donc, c'est une bonne manière de truquer la réalité divine. Parce que la réalité divine, c'est Dieu qui a créé une terre, qui a agencé différentes choses sur cette terre pour le bien de tous. Et puis, il y a eu la désobéissance, on le sait, il y a eu le péché. Et donc, suite à ce péché, Dieu faisant grâce, il y a eu un sauveur, qui est quand même mieux que Harry Potter, on va dire. Jésus est mieux qu'Harry Potter. Vous êtes de mon avis? Oui, un petit peu quand même. Christine à ma droite dit qu'elle n'aime pas. Voilà, on va le relire ensemble. Et il nous parle d'une réalité positive pour l'avenir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un truc apocalyptique où tout va s'enfermer. L'apocalypse elle-même nous parle de l'au-delà, nous parle de ce que Dieu a en réserve pour après. Alors après de grandes batailles spirituelles, on le sait, mais il y a un après. Donc ça m'a amené vis-à-vis de ces mensonges médiatiques qui intoxiquent notre inconscient collectif, Je me dis, mais qu'est-ce qu'on a besoin de prophètes, de prophéties, de dons prophétiques? Et je dis, pour l'instant, je dis très clairement, je fais le distinguo maintenant entre les ministères, les cinq ministères, et là, les neuf dons qu'on va voir. Il y a des ministères actuellement dans le monde qui disent des choses, et ils doivent être approuvés, ils doivent être vérifiés, voilà. Ça, on verra, mais là, on va parler du don de prophétie, pas du ministère. Alors, ce qu'est un prophète aujourd'hui? Dans l'Écriture, le terme prophète ne se limite pas au sens de celui qui déclare des événements à venir, mais il désigne plus généralement celui qui parle à la place de Dieu ou de la part de Dieu. Donc, le prophète est un porte-parole. C'est un homme qui parle de la part de Dieu. Il est revêtu d'autorité divine et il est inspiré du Saint-Esprit. Donc, pour moi, ces trois points sont importants. Homme qui parle de la part de Dieu, il ne parle pas de sa propre initiative et il ne dit pas « papa, 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 papa ». Et puis, il est obligé de dire « amen » ou pas, mais de toute façon, bien des choses ne sont pas justes. Il va avoir l'autorité divine, donc il aura été institué pour dire quelque chose de la part de Dieu et sera inspiré du Saint-Esprit. Ça se rejoint, les trois. Et donc, les prophètes ont pour mission de révéler les pensées et les desseins de Dieu. Dans Amos, chapitre 3 et verset 7, on lit « Ainsi le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. » Ça, c'est une promesse. Dieu n'accomplit rien avant d'en avoir révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. Puis dans Romains 1, on trouve cette bonne nouvelle, c'est ce que Dieu a promis il y a bien longtemps par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Elle parle de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui dans son humanité descend de David et qui a été déclaré Fils de Dieu avec la puissance de l'Esprit quand il a été ressuscité. Alors après, je vais utiliser les 6-7 points que Robert utilise assez régulièrement dans ses messages. Et on va aborder maintenant pourquoi Dieu a-t-il suscité des prophètes hier et aujourd'hui. Voilà. La première chose, c'est pour la révélation aux hommes de la loi et de la volonté divine. Dans Jérémie 7, « Depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait plusieurs siècles entre la sortie d'Égypte et la venue de Jérémie, depuis le jour où vos ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, j'ai envoyé tous les serviteurs, les prophètes, jour après jour, inlassablement, mais vos ancêtres ne m'ont pas écouté. » Donc le prophète a dit des choses, mais le peuple n'a pas accepté ses paroles. La prophétie peut être un appel à la repentance. Et je pense en particulier, j'en reparlerai deux mois après, c'est la prophétie qui a été donnée à Jonas. Jonas n'était pas content du tout que Dieu prophétise quelque chose sur Ninive pour lui donner le temps de se repentir. Et donc, il a fait un plouf dans l'eau, le temps de réaliser ses erreurs, son infidélité, sa désobéissance, etc. Alors, je vous ai dit que c'est un appel à la repentance, et pour moi, c'est une proclamation du salut. C'est-à-dire que tous les prophètes ont parlé de Jésus. Que ce soit Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, voilà, et Zacharie, tous les prophètes ont parlé de la venue de Jésus, de sa mort, de sa résurrection, de ce cadeau qu'il offre à chacun de pouvoir naître de nouveau. Voilà. Et ce qui est important, c'est que Jésus nous offre quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans le monde actuellement, c'est le pardon de nos péchés. Combien il est important, quand on en a besoin, de pouvoir se tourner vers Jésus et lui dire bah, pardon. On a fait la Sainte Cène tout à l'heure et c'est le temps où on peut dire à Dieu mais pardon Seigneur parce que là j'ai fauté et je voudrais que tu me nettoies, tu me purifies pour qu'après je puisse avoir la capacité de recommencer une semaine nouvelle. Quatrième point, c'est les prophètes ont été suscités par Dieu pour l'édification, l'exhortation et la consolation des croyants. Donc celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, il les encourage et les réconforte. Et ces trois mots, édification, exhortation, consolation, peuvent être le sujet d'un... Oui, je donne la parole aux autres, mais si vous désirez prêcher sur ce thème, il y a vraiment de quoi dire et je trouve que c'est merveilleux. Le cinquième point, c'est l'annonce des jugements de Dieu. Donc ça, c'est moins facile. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Et on verra un peu après, mais c'est important. On le trouve, par exemple, quand les anges vont venir voir Abraham pour lui dire, Dieu, l'Éternel a prévu de faire, de bazarder complètement Sodome et Gomorre parce que c'est pas bien, c'est pas juste. Et, voilà. Selon les critères de Dieu, Sodome et Gomorre méritaient d'être effacés de la surface de la terre. Et je pense que malheureusement, aujourd'hui, il y a peut-être d'autres villes, d'autres pays qui pourraient, sans la grâce de Dieu, avoir aussi ce jugement. Puis il y a la conversion de Ninive, je viens d'en parler, la conversion des habitants de Ninive qui vont être tellement secoués qu'ils vont se repentir. Que là, le jugement de Dieu, la prédiction des jugements de Dieu a fait que ça n'a pas été jusqu'au bout. Et il y a aussi, bien sûr, la révélation des événements futurs. Pour notre monde, pour l'Église, pour le peuple d'Israël, il y a aujourd'hui encore les révélations des événements futurs. Donc, on continue avec, on revient sur un autre point. À la Pentecôte, après avoir vécu auprès de Jésus tout son temps sur la terre, avoir vu Jésus ressuscité, ben les apôtres vont avoir la chance de pouvoir recevoir les dons de l'Esprit Saint. Il y aura la Pentecôte, donc ce temps où ils reçoivent l'Esprit, mais après on voit qu'ils vont être à plusieurs reprises remplis de l'Esprit Saint et que des dons leur seront donnés de manière plus importante. Paul, il n'était pas là après la mort de Jésus, il n'était pas converti, n'empêche qu'il a quand même eu un certain nombre de dons prophétiques qu'il a mis au service de l'Église. Donc les neuf dons, c'est une parole pleine de sagesse, une parole chargée de connaissances. Il s'agit d'exercer la foi d'une manière particulière, de guérir les malades, de faire les miracles, de vivre, de transmettre une activité prophétique, d'avoir le discernement de ce qui vient de Dieu et le discernement des autres esprits, de s'exprimer dans les langues inconnues et d'interpréter ces langues. Là, moi, j'ai une question à nous poser. Devant cette liste, hein, 9, on aurait pu les mettre là-haut, et puis devant cette liste, quels sont les dons qu'on a déjà mis en pratique? Et ce n'est pas avec orgueil, mais simplement pouvoir dire, ben oui, le Seigneur m'a déjà donné tel don à utiliser pour sa grâce, pour distribuer un peu de sa grâce autour de nous. Voilà, ça c'est ma première question. Et puis, quels sont les dons que je désirerais demander au Seigneur pour les mettre au service des croyants et des non-croyants à l'avenir? Quel don j'ai déjà utilisé? Quel don Dieu m'a déjà donné d'utiliser? Et l'autre chose, c'est quel don je demande à Jésus aujourd'hui, au Saint-Esprit aujourd'hui? Je continue avec un thème où j'ai mis une prophétie, comment la recevoir et comment me mettre en marche. prophétie, comment la recevoir, comment me mettre en marche. Donc, comment la recevoir pour une autre personne? Je vais vous donner à nouveau quelques points. Le premier, c'est ce qui me paraît essentiel, c'est d'avoir de l'amour pour notre prochain. Avoir de l'amour fait qu'on va pouvoir dire, bah, Seigneur, pardon, je suis là. Et je pense que malheureusement, dans les églises, il y a eu beaucoup plus de sentences douloureuses qui ont été dites que des prophéties dites dans l'amour et le respect. Et ça, ça crée des blessures importantes pour les hommes et les femmes de Dieu qui reçoivent ça et qui... Ça macère. Donc, réfléchissez. Si le Seigneur vous demande de donner une prophétie, vérifiez si elle vient bien de Dieu et si c'est quelque chose qui est de l'amour de Dieu. Agapé. Il faut avoir la foi et avoir une pleine confiance que Dieu va agir. C'est-à-dire que je vais recevoir une prophétie, pour la dire, il va falloir que j'ai confiance que c'est de lui et confiance que c'est lui qui va la réaliser, la prophétie. Ce n'est pas moi, jamais moi qui réalise une prophétie. Je transmets quelque chose à un groupe, à quelqu'un, etc., mais je ne suis que le porte-parole, comme on a dit tout à l'heure. Je suis un passeur de parole, pas plus, pas moins. Ce qui est aussi indispensable, c'est d'avoir vraiment une attitude d'humilité, de dire comme le jeune Samuel, parle, ton serviteur écoute, et avoir une attitude d'humilité par rapport à ceux et celles à qui on donne cette parole. Quatrième point, je me suis dit, il faut être à l'écoute de la petite voix de Dieu à l'intérieur de nos cœurs. Ça va être cette petite voix, ça va être la parole de Dieu, et on le voit, on l'a encore vu ce matin, il y a des personnes qui ont mis en place le don prophétique, qui ont reçu de Dieu et qui ont transmis. Et moi j'ai réalisé, quand j'avais reçu des prophéties, que parfois il faut la laisser grandir en nous, la laisser mûrir avant de la transmettre. J'ai l'impression que quand c'est comme ça, c'est comme si le Seigneur nous dit « Attends, je veux lui donner du coffre, je veux lui donner des couleurs. » Si tu transmets 5 mots, les uns à côté des autres, ça fera peut-être joli, etc. Mais ça ne rejoindra pas les gens en profondeur. Alors, le cinquième, on aurait pu le mettre en premier, c'est un conseil indispensable, c'est bannir toutes les formules. Le Seigneur m'a dit que, frère, je reçois une parole pour toi. Le Seigneur m'a dit que, combien de gens ont dû faire face à ce le Seigneur m'a dit que. Et puis en toile de fond de ces paroles, il y a des sentences du style, si tu n'obéis pas à la prophétie, alors tu désobéis à Dieu. Tu désobéis pas à Colette, tu désobéis à Dieu. Qu'est-ce que c'est? Massacrant. Le Seigneur m'a dit que si tu le fais pas, le Seigneur, il viendra te taper sur la tête. Pour moi, vraiment, quand j'étais amenée à transmettre des prophéties, j'avais vraiment à cœur qu'elles ne m'appartenaient pas. Elles ne m'appartenaient pas. Alors, après, j'ai eu à cœur de vous partager comment m'approprier une prophétie pour moi-même ou comment la transmettre pour quelqu'un d'autre. Donc, on a fait pour quand on a besoin de passer une parole à quelqu'un d'autre. Maintenant, on va faire, c'est dans les deux sens, mais vous allez voir. Quelqu'un me donne une prophétie. Il va me dire, Colette, je reçois ça pour toi, ou voilà. Ou bien dans une assemblée, j'entends une parole, j'entends une lecture, et puis ça me parle. Voilà. Donc il y a une trentaine d'années, j'ai eu l'occasion de rencontrer Daniel Scherer, qui est un des responsables de Jeunesse en Mission France, et il nous a donné des conseils par rapport à la prophétie. Je voudrais vous en donner quelques-uns. faut d'abord vérifier si la prophétie est bien conforme à la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette prophétie qui franchement n'est pas biblique? Par exemple, ce qui nous a dit, qui nous a été dit au dernier cours Alpha, c'est frère, peut-être il est temps que tu changes de femme. C'est ça, il mettait ça dans un autre truc, mais voilà, il serait peut-être temps que tu allais à, je sais pas, tu as dévalisé la Banque de France, t'as pas assez tout pour mettre dans la dîme, donc voilà, tu mettras le dixième de ce qu'il y a à la Banque de France, ça va renflouer les stocks, hein. Et puis, quand quelqu'un me donne une prophétie, est-ce que ça brûle? Est-ce que ça bouillonne en moi? Est-ce que j'entends cette prophétie et je sens, ouh, ça bouge mes lignes, ça me fait agir? La prophétie se reçoit avec foi et avec discernement, donc besoin des frères et sœurs parfois d'aller les voir. J'ai reçu telle parole, je ne suis pas sûre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut prier pour ça? Voilà. La prophétie est pour un temps donné. Je vous donne un exemple. En 1995, quelqu'un est venu voir Colette. Avec plusieurs frères, on a vraiment discerné que tu devais aller en papaousie. Papaousie. Voilà. Et puis moi, regarde ça. Oh, oui, ça coule un peu dans mon cœur. Je vais aller en Afrique. Je crois que c'est quand même dans l'Afrique. Ouais, je sais pas. Et bon, voilà. Ça va me faire réfléchir. Et si ça bouillonne au fond de mon cœur, bah, d'ici le temps où je vais aller sur le champ missionnaire, peut-être il va falloir que je me renseigne où ça se trouve exactement sur la carte du monde. Y a-t-il d'autres missionnaires que je pourrais rejoindre? Je vais pas aller tout seul, Colette. Il fait rire. Dois-je me former avant d'aller sur le champ missionnaire? Dois-je me former? Dois-je apprendre une langue nouvelle? Dois-je apprendre un métier? De plus en plus dans les pays d'Afrique, on doit y aller avec un métier qui va les aider et non pas seulement une bonne parole parce qu'ils ne reçoivent pas. Mais si on les aide, le message peut passer plus facilement. Quel est l'arrière-plan religieux, politique, social de ce pays, de la Papouasie? C'est peut-être une invention de Colette, hein, la Papouasie, j'en sais rien. Toujours est-il que, je reprends un autre exemple, il y a des années, j'ai eu à cœur la relation d'aide chrétienne. Et bien, depuis 1993, je n'ai pas arrêté de me former. À des endroits divers, sur des cursus plus ou moins longs ou pas. Ça a été en Amérique pour moi, en 1995. Ça a été avant, j'avais été voir une session sur les conséquences des abus et puis les dangers d'homosexualité et tout, voilà. C'était organisé par des cathos. Et puis après, ben, il y a eu d'autres choses qui ont fait que je me suis formée. Et je crois que si on ne passe pas par cette étape de la formation, il y a des choses qui dérapent en cours de route. Et donc, une prophétie est importante pour notre avenir et elle doit être approuvée par les frères et sœurs. Et puis, le dernier point, mais vraiment ça, il faut le retenir. Une prophétie qui n'est pas suivie de mon obéissance, elle avorte. Elle s'arrête là, point. Et je me dis, peut-être on a reçu des prophéties auxquelles on n'a pas répondu. On avait peur, ou bien, voilà. Je ne suis pas là pour juger qui a fait quoi. Hein. Mais ça, c'est important. C'est le point qui m'avait marqué dans ce que disait Daniel Scherrer. C'est une prophétie qui n'est pas suivie de mon obéissance avorte. Elle ne porte pas de fruits. Pour finir sur une note plus sympathique, j'ai envie de vous dire une expérience que j'ai vécue à plusieurs reprises au Château Blanc. C'est Dans certaines sessions, à la fin de la session, on se met en groupe de 2, 3, 4, 5 maximum. Et puis, on essaye de simplement dire, voilà, on va se poser et on va demander au Seigneur des choses qui vont bénir les frères et les sœurs. Et là, à tour de rôle, la personne se lève et on prend du temps simplement pour écouter ce que le Seigneur dit. Et quand le Seigneur a parlé, on le donne. Donc, une autre personne passe et ça peut être 4 personnes qui vont parler. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être riche si on utilise ça? Quand on en a besoin, ou même peut-être dans le cadre des triplés, de mettre en place, de pouvoir être à l'écoute de Dieu pour nos frères et sœurs, et puis, voilà, sans avoir ces formules tout faites, le Seigneur m'a dit que, et si tu désobéis à la prophétie, ça va aller mal. Non, non. On bénit, on reçoit des choses bonnes pour nos frères et sœurs. On les donne et ça leur appartient. Seigneur, on te remet tout ce qui a été dit ce matin et on te demande, Seigneur Jésus, de venir bénir dans nos cœurs toutes les prophéties que nous avons reçues au fil de notre marche avec toi et peut-être aussi pour certains avant même le début de notre marche avec toi. Et nous te demandons de nous donner ce don, si tu le désires, et qu'on puisse le recevoir avec foi et avec amour pour nos frères et sœurs. Amen.
Merci Colette. Il dit dans la Bible, je ne veux pas que vous soyez ignorants, hein, des dons spirituels, et donc on a été enseignés ce matin. Et quelquefois, quand je pense à ça, je dis, mais il y avait une culture à l'époque quand Paul écrivait aux Corinthiens. Ce n'était pas il y a une année. Ce n'était pas en France il y a une année, dans notre culture. Il écrivait dans un contexte culturel avec les gens. Et quelquefois, les gens, ils n'avaient pas la télévision. Ce n'est pas même comment ils parlaient les uns aux autres, comment ils faisaient. Et je pense quelquefois, j'ai toujours un défi, c'est-à-dire, mais comment est-ce que ces dons s'expriment en 2015 en France? Parce que ce n'est pas érigé en pierre, voilà, tac. Qu'est-ce que Paul, quand il disait parole de sagesse, parole de connaissance, miracle, c'est vrai qu'il parlait dans un contexte culturel, il y a une vérité. Mais souvent, mon défi, quand je lis ces passages, c'est pas, bon, je crois au don du Saint-Esprit, mais c'est, mais... Parce que si on s'habillait comme les Grecs en Corinthe, et tu vas au travail, les gens vont penser que t'es un peu fou, non? Ils vont dire, mais t'es quoi, là? Non, mais je suis habillé comme un Grec de Corinthe d'il y a 2000 ans. Et donc les gens, ils vont dire, ah, mais ça, c'est spécial, ça. Et j'ai dit, mais quelquefois, les modes changent assez rapide, non, comme on est habillé. Et je vois quelquefois, bon, grâce à Pascal, hein, je vole avec un coupe de cheveux léger. Mais ma fille, quelquefois, je suis assez démodé pour ma fille Myriam. Et j'arrive, elle me dit, mais Robert, tu es coiffé comme un palmier, parce que tu as des touffes de cheveux comme ça, divisées en deux. Et je sais que quelquefois je dois faire des efforts pour être plus à la page, hein, parce que j'ai et ça, je pense que c'est vraiment le défi de tout ce que Colette nous a apporté ce matin. Comment est-ce que je peux vivre pas comme un extraterrestre, pas comme un gars qui arrive, mais qu'est-ce que ça veut dire parler en langue, bon, parole de connaissance, prophétie, ainsi dit le Seigneur. Mais dans mon travail, parole de sagesse, prophétie, être un être prophétique, magnifique. Donc, comment est-ce que je peux, en 2000, j'ai pas des réponses, hein. Mais je pense que chacun peut incarner sa réponse. C'est le même esprit toujours, qui a traversé les cultures, qui n'est pas à la traîne. Je suis 100% sûr que le Saint-Esprit n'est pas à la traîne et qu'il veut nous mobiliser, pour nous donner ses paroles. Et même l'Église change. Je pense que c'est souvent je lutte avec ça. J'ai dit, mais je ne veux pas être, qu'est-ce que je peux dire, dilué par une culture, qu'on n'a plus de pertinence, qu'on se laisse envahir par le monde et tout ça. D'accord, je suis d'accord. Mais en même temps, on ne veut pas non plus être tellement différent, tellement à côté du monde qu'on ne peut plus parler aux gens. Et c'est un défi. Et même pour nos propres vies, est-ce qu'on veut être... On peut être entre nous, on peut être là-bas, incarnant les réalités et d'être naturellement surnaturel. Et donc, merci Seigneur, merci pour tous ces enseignements.